Voilà, nous allons ce matin nous pencher sur un court texte de l'épître de Paul aux Philippiens, texte qui nous a récemment à nouveau interpellés, mon épouse et moi, et qui traite d'un sujet bien connu, le contentement. Ce n'est pas un sujet nouveau. Quand j'étais enfant, mes parents nous invitaient souvent à jouer au jeu du contentement. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, mais c'est surtout quand nous étions plutôt enclins à râler et à rouspéter. Et de nos jours encore, et indépendamment de la pandémie, nous sommes confrontés à des pressions extérieures, pressions qui tendent à faire de nous de grands insatisfaits. C'est par exemple, de manière sournoise, l'objectif recherché par la publicité qui nous pousse à l'achat en éveillant notre insatisfaction quant à notre état. Alors, nous voulons plus, nous voulons mieux, plus d'argent, plus de confort, plus de sécurité, une plus grosse voiture, une plus grande maison. Peut-être avez-vous entendu cette semaine à la radio, aux informations, que les consommateurs français sont surexposés à la publicité sur les SUV. Les SUV, ce sont ces grosses voitures qui se font maintenant. Et cela va à l'encontre de l'écologie. Pourquoi donc encore aborder ce sujet du contentement? Peut-être aussi parce que nous, les Français, c'est bien connu, nous sommes connus donc pour être un peuple de râleurs. Et je ne m'exclus pas du mot peuple. Râler, c'est exprimer son insatisfaction, mais c'est parfois aussi un sport national. Par exemple, nous sommes si facilement mécontents de nos dirigeants et des décisions qu'ils prennent, que ce soit peut-être dans l'Église ou dans le département ou au plan national. Et le contexte de la pandémie est venu amplifier ce mécontentement et cette insatisfaction quasi chronique. Dans ce contexte, qu'est-ce que la Bible a à nous apprendre? Qu'est-ce que nous avons, nous, chrétiens, à témoigner sur ces questions, ici, à Moret, Loing et Orvan? Notre foi, basée sur les promesses de la parole, de la Bible donc, devrait faire de nous des gens heureux, qui savent se satisfaire de l'état présent. Et pourtant, si vous allez faire un petit tour sur Internet, vous trouverez un certain nombre de prédications dans la mouvance de l'évangile de la prospérité qui parlent de succès, de réussite, de prospérité et plus rarement de souffrance, de maladie ou de pauvreté. Certaines personnes peuvent être attirées par ces discours, sauf que cela ne correspond pas vraiment à l'évangile, mais conduit plutôt à une sorte d'enfermement dans l'insatisfaction, parce que ce qu'elles veulent, ce à quoi elles aspirent ne correspond pas à ce que Dieu veut leur donner. Donc voyons maintenant ce passage de l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 4, les versets 10 à 13. Je vais lire dans la Bible du Semeur, ce sera peut-être un peu différent de ce qui va être affiché. Je me suis réjoui comme d'une grâce venant du Seigneur, en voyant que votre intérêt pour moi a pu finalement porter de nouveaux fruits. Car cette sollicitude à mon égard, vous l'éprouviez toujours, mais vous n'aviez pas eu l'occasion de la manifester. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris, m'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie, dit Paul. Alors, quel était le contexte de ces versets? Paul était en prison, peut-être à Rome. Et là, dans notre texte, on voit que Paul se réjouit de ce que les chrétiens de l'église de Philippe, en Macédoine, en Grèce, ont décidé de lui envoyer un soutien financier. Un soutien qu'on imagine franchement bienvenu, parce que les prisonniers étaient à l'époque dépendants d'aides matérielles extérieures. Il n'y avait pas le service intérieur à la prison pour les repas, en général. Et donc, leur survie dépendait de ce qu'ils pouvaient recevoir de l'extérieur. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il est fort probable que l'église de Philippe passait elle-même par une situation financière assez pénible et qu'elle n'avait pas pu aider Paul autant qu'elle l'aurait souhaité. C'est ce que l'on peut comprendre entre les lignes quand Paul dit que cette sollicitude à mon égard, vous l'éprouviez, mais vous n'avez pas eu l'occasion de la manifester. Donc, et en même temps, tout en disant sa reconnaissance pour le don qui venait d'arriver, Paul veut prendre le temps de dire quelques mots sur le contentement. Et il déclare au verset 11, « Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, sous-entendu la joie et la reconnaissance, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. » Quel est donc le secret de Paul qui déclare avoir appris de se contenter de l'état dans lequel il se trouve? Comment fait-il? Serait-il un surhomme? Eh bien, le premier point de réponse que Paul nous donne, c'est que le contentement est quelque chose qui s'apprend. Paul nous dit qu'il a appris à se contenter de l'état dans lequel il se trouvait. Combien de fois me suis-je dit, en regardant nos pianistes, Serginet aujourd'hui paye souvent les autres dimanches, eh bien, j'aimerais tellement jouer aussi bien qu'eux. Mais je sais fort bien qu'aujourd'hui, je n'ai pas pris le temps d'apprendre, quand j'étais enfant, alors que j'en avais tout à fait la possibilité. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas jouer. Paul n'était pas différent de nous, et son penchant naturel pouvait le conduire à être insatisfait de manquer de telle ou telle chose et à vouloir rechercher le mieux. Mais il a appris à se contenter de l'état où il se trouvait. Mais qu'a-t-il donc appris exactement, Paul? On peut dire qu'il a appris une nouvelle définition du contentement. Oui, parce que si nous sommes nous, par nature, de grands insatisfaits, c'est sûrement parce que nous nous faisons une mauvaise idée de ce qu'est le contentement. D'ailleurs, que répondrions-nous si on nous demandait « qu'est-ce qu'il te faudrait pour que tu sois satisfait, pour que tu sois content ?» Vous pouvez sortir une feuille et faire l'exercice. La réponse serait certainement une liste de souhaits, de désirs. « Je serais comblé si je trouvais un travail. » Si je trouvais un conjoint, si mes enfants se réconciliaient, ou si j'habitais dans un nouvel appartement, ou si je pouvais enfin avoir cette nouvelle voiture, etc. Je pense que la plupart d'entre nous répondrions qu'être satisfait et content, c'est recevoir ce que nous voulons. C'est là, quelque part, notre définition du contentement, recevoir ce que l'on veut. Mais on peut penser que Paul, lui, avait découvert une autre définition, bien meilleure et même, je dirais, presque provocante. Pour lui, le contentement, ce n'est pas de recevoir ce que l'on veut, mais l'inverse, c'est vouloir ou accepter ce que l'on reçoit. Je vais répéter, parce qu'il faut vraiment bien se mettre ça dans la tête. Le contentement, ce n'est pas recevoir ce que l'on veut, mais c'est vouloir, c'est accepter ce que l'on reçoit. Et oui, quand Paul disait se contenter de l'état dans lequel il se trouvait, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il ne désirait pas autre chose. En plus, et plus encore, que l'état dans lequel il avait reçu, il avait appris à le vouloir, à l'accepter avec reconnaissance. et même à s'en réjouir, même si en l'occurrence, il se trouvait où ? En prison. En prison. Oui, mais me direz-vous, c'est quand même difficile d'accepter un état malheureux, un état fait de détresse, de maladie, d'accepter la prison. Effectivement, oui, sans aucun doute, c'est difficile. Et il se trouve que cette semaine, j'ai reçu une lettre de nouvelles de l'ancien pasteur de l'église de Moissy-Cramayel, tout près, au nord de Melun, qui est maintenant missionnaire au Togo et qui est responsable d'une station de radio. Et dans sa lettre de nouvelles, précisément, il citait l'exemple d'un aumônier. Alors écoutez cet extrait. Juste un exemple d'un ami togolais qui est aumônier à l'hôpital de l'Espérance. Il s'est rendu à un programme de formation au Burkina Faso en janvier et il a été contrôlé positif au Covid à son retour à Mango, au nord du Togo. Ici, il vous enferme dans une chambre à l'hôtel local pendant 14 jours. Il se trouve qu'un autre employé de l'hôpital, musulman, a également été contrôlé positif au Covid le même jour et ils ont été mis ensemble dans la même chambre. Ils ont dû rester ensemble 24 heures sur 24 pendant tout ce temps. L'aumônier, d'abord accablé par le découragement, a finalement pris comme un signe du Seigneur le fait d'avoir à passer du temps spécifique avec son collègue, l'infirmier. Ils ont eu des études bibliques quotidiennes et de nombreuses conversations sur Jésus au cours de ces 14 jours. Ce collègue n'a pas encore pris de décision par rapport à Christ, mais ce moment sera probablement décisif dans sa vie. On voit que cet aumônier a accepté cette situation qu'il a reçue, qu'il n'a pas cherchée, qui n'était pas agréable, mais il l'a acceptée. Et il a trouvé qu'il a pu être au service du Seigneur, même dans cette circonstance. Mais l'apôtre Paul partage une autre leçon sur son apprentissage du contentement. En fait, la deuxième chose que Paul a apprise, et c'est fondamental que nous-mêmes nous arrivions à l'apprendre aussi pour nous, c'est qu'il y a deux grands obstacles au contentement. Au verset 12, Paul dit « Je sais vivre humblement comme je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le manque. » Pour Paul, la pauvreté et la richesse, le manque et l'abondance sont tous deux des obstacles au contentement. Nous pensons que seule la pauvreté et le manque sont une épreuve. Mais nous pensons que l'abondance est plutôt un signe de bénédiction. Mais ça, c'est parce que nous avons une mauvaise définition du contentement. Pour Paul, au contraire, le manque et l'abondance sont tous les deux des épreuves terribles pour l'humain, des épreuves qui peuvent dégrader, tordre et détruire. Je ne suis pas en train de dire que la pauvreté n'est pas difficile, qu'il ne faudrait pas venir en aide à ceux qui sont dans le besoin matériel, pas du tout. Mais il faut aussi savoir que l'abondance fait aussi souvent très mal aux humains, même si c'est sur d'autres plans. Par exemple, l'abondance rend suffisant, elle rend fier, elle donne le sentiment que l'on est autonome, que l'on a besoin de personne. Et ça, sur le plan spirituel, c'est mauvais. Donc Paul nous rappelle l'erreur de penser comme un absolu qu'il vaudrait mieux être riche que pauvre, qu'il vaudrait mieux avoir que de manquer. Je me souviens que quand on plaisantait avec des amis, on disait même « il vaut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade ». Donc, vous pouvez faire le parallèle. Non, les deux, l'abondance et la pauvreté, sont des épreuves. Et c'est pour cela que Paul dit qu'il a appris à se contenter, quel que soit l'état dans lequel il se trouve. Il dit qu'en tout et partout, j'ai appris. Ça veut dire que ce n'était pas inné, je l'ai dit au début. Il a appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le manque. Et c'est pour cela que Paul dit au verset suivant, « Je peux tout grâce à celui qui me fortifie, grâce à celui qui me rend puissant. » Ce verset, soit dit en passant, est un des versets de la Bible les plus couramment sortis de leur contexte. L'idée n'est pas que grâce à Christ, on pourrait tout accomplir, gagner un match, réussir son examen, réaliser ses rêves les plus fous. Non, l'idée ici, dans ce contexte, c'est simplement qu'en Christ, on peut devenir suffisamment fort pour vaincre l'épreuve du manque comme l'épreuve de l'abondance. En Christ, il est possible d'être pleinement satisfait de son état. Donc, si je résume, Paul nous apprend jusque-là quatre choses. Premièrement, que le contentement, ça s'apprend, ça n'est pas inné, ça demande de l'exercice. Donc, courage. Deuxièmement, il nous oriente vers une nouvelle définition du contentement qui est non pas de recevoir ce que l'on veut, mais de vouloir et accepter ce que l'on reçoit. Troisièmement, il présente un nouveau regard sur le manque et sur l'abondance comme étant tous les deux des épreuves pour nous. Il souligne aussi la possibilité d'être vraiment content et satisfait aussi bien avec ce que l'on a qu'avec ce que l'on n'a pas, avec l'état qui est le nôtre. Mais comment donc faire pour vivre de cette façon, pour expérimenter ce contentement, quel que soit l'état dans lequel on se trouve? Comment Christ peut-il nous rendre suffisamment puissants pour cela? Eh bien, cela commence par un changement de regard sur nos situations. Trop souvent, on évalue nos circonstances au travers de notre seul ressenti. Par exemple, si je suis dans une situation financière difficile, évidemment, je n'aime pas cette situation, et donc, je pense qu'elle n'est pas bonne. Ou alors, si j'ai des difficultés au travail, ce n'est pas confortable, donc je pense qu'il me faudrait trouver un nouvel emploi. Dito, si j'ai des difficultés avec mon conjoint, je pourrais être tenté d'en changer. Ce que je ressens est intrinsèquement en lien avec ce que je pense. Mes pensées jouent sur mon ressenti. Et c'est essentiellement mon ressenti qui dirige ce que je pense d'une situation que je traverse. Mais je vais apprendre le contentement si j'arrive à changer de regard sur ma situation. Si j'apprends à ne plus simplement laisser mes ressentis maîtriser mes pensées. On apprend le contentement quand on accepte que chacune de nos circonstances, bonnes ou mauvaises, moins bonnes, selon nos ressentis, nous sont données. C'est-à-dire quels sont les bons choix que Dieu fait pour nos vies au moment présent. Ça, c'est important. Est-ce que ce n'est que la foi en un Dieu grand? Et ça, ce n'est que la foi en un Dieu grand, souverain, bon et parfait, qui peut le permettre. Si je sais et si je crois que Dieu a un plan bien précis, un plan parfait et bon pour chacune de nos vies et pour sa création tout entière, si je crois qu'il a le contrôle de la situation, alors je pourrai accepter chaque situation comme un don de sa part. C'est un apprentissage, comme j'ai dit en introduction, et l'histoire de Job, par exemple, que vous connaissez certainement pour la plupart, peut nous aider dans cet apprentissage. Mais on apprend le contentement quand on sait dire « Voilà ce que Dieu me donne aujourd'hui. Je sais que c'est ce qu'il veut pour moi, là, maintenant. Donc, je sais que c'est bon. » Ce n'est pas facile à entendre et à dire ça, même pour moi. Et puisque je sais cela, alors je peux aussi vouloir et accepter cette situation. Et je peux la recevoir avec reconnaissance, même si elle n'est pas agréable. Cela peut prendre du temps, certes, mais c'est possible. Dieu me fait passer par l'abondance. Merci Seigneur, je sais que c'est bon pour moi aujourd'hui. C'est facile à dire. Dieu permet pour moi la pauvreté. Merci Seigneur, je sais que c'est bon pour moi aujourd'hui. Il faut se souvenir que Dieu n'est pas absent de nos épreuves. Au contraire, il est à l'œuvre dans nos vies et c'est pour cela que c'est bon. Au travers de ce que je traverse, que ce soit le manque ou l'abondance, il veut me faire avancer. Il veut me transformer à l'image de son Fils. Il est à l'œuvre et je peux donc dire oui, si c'est ce que Dieu veut pour moi, si c'est ce qu'il me donne, alors c'est bon. C'est avec ce regard renouvelé par la foi sur ses propres circonstances que Paul a pu déclarer au verset 13 « Je peux tout grâce à celui qui me fortifie ». Au lieu de se lamenter en disant « je ne peux pas » ou « je ne veux autre chose » ou « je veux autre chose », Paul avait appris à accepter le fait que Dieu sait ce qu'il fait, y compris d'être en prison pour lui. Paul connaissait Dieu dans son amour, dans sa puissance, dans sa bonté et dans ses intentions parfaites. Et il pouvait donc se contenter en lui faisant pleinement confiance de l'état dans lequel il se trouvait. Et là, j'ai pensé aussi, en rédigeant ce texte, au naufrage de l'apôtre Paul sur l'île de Malte. Bon, j'ai prêché une fois là-dessus, sur cet épisode, c'est vraiment saisissant de voir comment Dieu a transformé cet épisode tragique en événement pour sa gloire. Et si je crois vraiment que nous aussi, si nous nous souvenons de cela, si nous nous souvenons que Dieu est celui qui s'est fait connaître en Jésus-Christ, qui est ce Dieu bon qui dirige toutes choses, si nous nous souvenons aussi, ainsi que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, comme Paul le dit en Romains 8, 28, alors notre manière de voir la vie, de voir les circonstances, sera complètement chamboulée, même dans notre prison, même dans notre presque confinement aujourd'hui. Cette foi en Dieu, en Christ, va créer en nous une puissance qui nous rendra capables de vivre dans le manque et de vivre dans l'abondance. Parce que, quelles que soient les circonstances, nous savons que Dieu nous place là où il veut et que c'est bon. Et c'est ainsi que nous pourrons vouloir ce que nous avons, plutôt que de vouloir ce que nous n'avons pas. Mais n'oublions pas que cette puissance qui nous rend capables d'être pleinement satisfaits, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves, et on en connaît tous, de près ou de loin, les épreuves, eh bien, que c'est Christ qui nous la donne. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Je peux tout en Christ qui me rend puissant, selon les versions. Et donc, le cinquième secret du contentement de Paul, c'est aussi, et d'abord cela, c'est d'avoir Christ dans sa vie et se satisfaire de Christ, de faire de Christ sa satisfaction. Paul avait appris, face aux épreuves du manque et de l'abondance, que Christ était suffisant pour lui. Qu'en Christ, il avait tout ce dont il avait besoin pour traverser les épreuves. Donc, plaçons notre confiance en Christ, qui est pleinement suffisant. C'est cela le secret de Paul, c'est cela le secret de sa joie. Quelles que soient les circonstances, nous pouvons faire confiance à Christ et faire de lui notre tout, lui offrir tout ce que nous sommes, parce qu'il nous comble de sa présence et de son amour, et cela même en prison. Prions. Seigneur, cet exemple de Paul nous interpelle et m'interpelle. Il peut même nous déstabiliser et nous humilier. Mais il nous encourage à placer toute notre confiance en Jésus-Christ, ton Fils. Lui seul peut nous aider à transformer notre regard et notre appréciation dans chacune des situations de manque ou d'abondance que tu places devant nous. Merci Seigneur, parce que en toi, nous avons les ressources pour vivre cette vie de contentement que tu veux pour chacun de nous. Merci pour ton amour et pour ta présence dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen.